Je proclame le retour de l'Empire sur les collines sacrées de Rome. Discours de Mussolini, le 9 mai 1936.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 3 octobre 1935, 250 000 soldats italiens pénètrent depuis l'Érythrée, depuis la Somalie, en territoire éthiopien. C'est donc le début de ce que l'on a appelé la guerre d'Abyssinie ou la guerre d'Éthiopie. Cet épisode n'est pas un épisode marginal des relations internationales durant les années 1930. L'événement va bousculer le concert des nations, va provoquer des ondes de choc qui vont favoriser la détérioration des relations internationales jusqu'au déclenchement finalement de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie s'est intéressée très tôt à l'Éthiopie, dès les années 1880. Elle est présente en Érythrée, en Somalie, et l'Empire du Négus est une proie tentante. En 1896, une expédition de 20 000 soldats italiens est organisée, mais se termine en tragédie parce que les troupes du Négus sont bien armées, beaucoup plus nombreuses, formés d'ailleurs et encadrés par des officiers russes et français, et à la bataille d'Adoua, 8000 soldats italiens trouvent la mort. La première tentative d'une conquête de l'Éthiopie se termine en fiasco total. Une fois au pouvoir, Mussolini va reprendre finalement ce projet. Et c'est à partir de 1932 que les états-majors et les sphères gouvernementales à Rome réfléchissent à la possibilité d'un conflit et d'une conquête de l'empire d'Haïlé Sélassié, le nouveau Négus, le nouvel empereur. En décembre 1934, un incident de frontière, incident qui fait tout de même quelques dizaines de morts, à Walwal, va faire finalement un prétexte pour engager sur la scène internationale une politique contre l'Éthiopie. Seulement Mussolini, s'il veut profiter de cet incident, est conscient tout de même qu'un conflit avec l'Éthiopie ne peut se faire qu'avec la neutralité des deux grandes puissances en Afrique, à savoir la France et la Grande-Bretagne. Concernant la France, il reçoit à Rome, du 5 au 7 janvier 1935, Pierre Laval, qui est ministre des Affaires étrangères et qui, au mois de juin, va devenir président du Conseil. Le problème de cette entrevue, c'est qu'elle a été en partie secrète entre les deux hommes et que la relation de Mussolini et la relation de Laval ne sont pas identiques. Pour Mussolini, Laval, au nom de la France, lui aurait donné carte blanche, y compris pour une conquête militaire de l'Éthiopie. Alors que Pierre Laval a toujours défendu l'idée qu'il avait seulement accepté une pénétration économique des intérêts italiens en Éthiopie, mais sans jamais accepter l'idée d'une conquête militaire. Concernant la Grande-Bretagne, sa décision est évidemment aussi capitale, parce que Londres est très présent en Égypte, au Kenya. Et l'indépendance de l'Éthiopie intéresse la Grande-Bretagne, en particulier parce que les sources du Nil se trouvent en Éthiopie. Le gouvernement britannique, à vrai dire, ne se montre pas très empressé pour une éventuelle aide armée à l'Empire d'Éthiopie. La fille de Mussolini, d'ailleurs, qui ira à Londres en juin 1935, qui rencontrera les autorités britanniques, s'entendra dire que, bien sûr, la Grande-Bretagne protestera contre une éventuelle action militaire, mais qu'elle n'irait sans doute jamais jusqu'à un conflit armé. C'est donc avec le sentiment que les puissances occidentales ne bougeraient pas que Mussolini, durant l'été 1935, prépare une campagne militaire extrêmement organisée. L'attaque a donc lieu le 3 octobre 1935 et il faut bien le dire qu'après quelques jours de combats relativement faciles, où d'ailleurs la ville d'Adoua et emportée par les Italiens, la résistance éthiopienne se durcit. Et il faut dire que les troupes du Négus sont bien moins armées, bien moins mécanisées mais font preuve d'un réel courage face à une armée italienne qui va monter jusqu'à 500 000 hommes, est dotée d'une aviation de bombardement, qui va d'ailleurs utiliser les gaz. D'autre part, la guerre d'Éthiopie a été aussi l'occasion de remobiliser l'opinion italienne contre l'étranger. En effet, la Société des Nations avait voté des sanctions contre l'Italie. Alors ces sanctions, d'ailleurs, sont à la fois réelles, mais insuffisantes. En particulier, on n'a pas fait un embargo sur le pétrole, par exemple, et les compagnies américaines vont continuer à fournir en pétrole l'Italie fasciste. De même que certaines de grandes puissances, comme l'Allemagne ou le Japon, qui avaient quitté les États-Unis, la Société des Nations, vont finalement, bien sûr, ne pas appliquer les sanctions. Néanmoins, malgré cela, l'Italie a un discours « Nous nous battons contre le monde entier, contre un empire esclavagiste ». Et il y a toute une série de propagandes qui jouent en faveur de la guerre d'Éthiopie en Italie. Par exemple, au mois de décembre 1935, on demande aux Italiennes de donner leur alliance de mariage. Et vous avez des centaines de milliers de personnes à Rome, à Milan, à Turin, qui vont porter leur alliance en or contre une alliance en laiton. D'autre part, la chanson s'empare également de la guerre d'Éthiopie et à la fin de 1935, une chanson italienne qui va être jouée très souvent sur les radios va essayer de populariser la guerre en Éthiopie.
L'artipiano guardi il mare, moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un'altra re.
Certe. La guerre a été plus longue, sans doute, que prévu. Il faut attendre le printemps 1936 pour que les troupes italiennes en finissent avec les armées du Négus. Le 6 mai 1936, le maréchal Badoglio entre à Addis Abeba en vainqueur. Trois jours plus tard, sur la place de Venise, à Rome, depuis le balcon du palais de Venise, où Mussolini a installé son bureau de travail, il proclame l'Empire et le retour de l'Empire sur les collines sacrées de Rome. Donc, on peut estimer à ce moment-là, pense-t-on, que la guerre d'Éthiopie est terminée. Officiellement, oui, elle est terminée. Mais à vrai dire, il y a tout de même une résistance de la population éthiopienne qui, par le biais de la guérilla, va, dans les années qui viennent, mener une résistance contre les troupes d'occupation italiennes. Mais d'autre part, il faut bien voir que cette guerre d'Éthiopie, si elle a marqué le zénith pour le régime fasciste, car il est sans doute exact que l'opinion publique italienne a apporté un vrai soutien à la guerre d'Éthiopie et que la victoire en Éthiopie a marqué la plus grande popularité de Mussolini auprès des Italiens. Mais il n'empêche que cette guerre d'Éthiopie a aussi déstabiliser le système international. D'abord, la guerre d'Éthiopie a discrédité l'ASDN, car la Société des Nations, dont l'Éthiopie faisait partie depuis 1926, n'a rien pu faire de concret contre l'Italie. Elle a certes voté des sanctions, mais qui finalement seront levées en juin 1936 et dont l'efficacité n'a pas été extraordinaire. L'autre conséquence, c'est la fin des alliances de la Grande Guerre. Jusqu'en 1935, bon an, mal an, l'Italie fasciste, même si elle se voulait révisionniste vis-à-vis des traités de la Grande Guerre, qui suivaient la Grande Guerre, était restée assez proche de ses alliés français et britanniques. À partir de la guerre d'Éthiopie, et c'est très net dans les relations avec la France, l'Italie fasciste mène une politique de plus en plus éloignée, voire même agressive. Ce qui fait que l'alliance franco-anglo-italienne de 1918 n'existe plus à la suite de la guerre d'Éthiopie. Enfin, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. C'est que, en agressant l'Éthiopie, Mussolini a montré que finalement, la force pouvait primer. Parce qu'effectivement, seul contre tous, contre la SDN, sans avoir un allié direct dans le conflit, eh bien, Mussolini a réussi à emporter la mise. Or, il est bien évident que à Berlin, quelqu'un s'est souvenu de ce processus. Si la violence paie, Hitler saura en retenir la leçon. D'ailleurs, dès le mois de mars 1936, c'est-à-dire avant même la fin des combats en Éthiopie, Hitler a remilitarisé la Rhénanie et finalement, cette remilitarisation qui était théoriquement interdite par le traité de Versailles n'a pas abouti à un recul allemand. Les Britanniques et les Français ont laissé faire. Donc en 1936, on se rend compte que le coup de force paye et malheureusement pour la paix, Hitler et Mussolini sauront s'en souvenir dans les années qui viennent.